Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1-2-1-2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
Sophie Durocher.
Tout un spectacle radiophonique.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer aujourd'hui en parlant de troubles alimentaires chez les enfants. C'est toujours un sujet délicat de parler de troubles alimentaires, de parler de l'apparence, de parler du poids avec les individus en général. On a toujours peur de se faire accuser de grossophobie. En même temps, il y a une pandémie d'obésité qui touche et les adultes et les jeunes. Alors, où est-ce qu'on met les limites? Comment on en parle? Et surtout, comment on en parle devant les individus concernés. Quand c'est un adulte, ça va, c'est facile. Vous avez plus de 18 ans, vous êtes capable vous-même d'en parler avec le médecin. Mais quand on parle des enfants, est-ce qu'on en parle devant eux avec le médecin ou on attend justement que la consultation avec le médecin soit terminée en présence de l'enfant? Ce sont toutes ces questions-là qui sont soulevées par Mélissa Larivière. Elle est diététiste nutritionniste. Bonjour, Madame Larivière.
Bonjour, Sophie.
Écoutez, c'est très intéressant. Vous avez donc mis au point un document que les parents peuvent imprimer, télécharger et soumettre à leur médecin pour dire, ben écoutez, quand je vais avoir rendez-vous avec mon enfant, je veux pas qu'on parle de son apparence ou de son poids devant lui. Pourquoi vous avez fait cette initiative-là, Madame Larivière?
Ben en fait, je vais tout de suite être très transparente. En fait, c'est une initiative que nous on voyait en fait pondre un petit peu beaucoup chez des collègues américaines des outils qui se développaient en anglais. Et on a eu ma collègue Cosette et moi l'idée d'offrir cet outil-là pour les parents et on a été s'affilier parce que si vous voyez bien, il y a plusieurs collaborateurs oui. À cette lettre-là, donc on n'est pas les seuls. On s'est affilié avec le groupe Équilibre, qui est un organisme au Québec là, qui promouvoit une image corporelle saine chez les enfants, chez ANEB aussi. Donc, on parle de troubles alimentaires. C'est la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires. Donc, ANEB aussi, on a Edith Bernier de grossophobie.ca. On a aussi Marie-Michelle Ricard, qui est une psychoéducatrice et psychothérapeute avec qui on collabore régulièrement, qui est aussi spécialisée en troubles alimentaires. Oui, mais vraiment à venir sensibiliser. Et nous, on sentait vraiment un besoin pour certains parents qui se sentaient... ils savaient pas comment aborder le sujet une fois qu'on se retrouve dans le bureau du médecin. Et puis nous, on voit quand même que des fois, des petits commentaires... Tu sais, on l'a dit, cette lettre-là, puis c'est pas de ne plus aborder le poids. Là. Le poids des enfants, la croissance des enfants, c'est important. Il faut prendre les données. On a besoin de les connaître.
Ouais.
Mais ensuite, comment je vais l'aborder de un avec le parent? Et comme vous disiez, est-ce que c'est bien que l'enfant soit présent? Nous, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on préfère que ce soit pas fait en présence de l'enfant parce que le plus longtemps, on est capable de les préserver un petit peu. Puis là, c'est pas de les mettre dans des bulles, hein? Mais c'est qu'on veut pas venir semer la petite graine qui pourrait débuter une insatisfaction corporelle parce qu'on le sait que le début d'une insatisfaction corporelle devient un obstacle ensuite à l'adoption des saines habitudes de vie. Puis nous, ben d'un point de vue de la santé globale, santé physique, santé mentale, on a une approche qui encourage le développement des saines habitudes de vie chez les familles et avec les jeunes enfants et les plus vieux aussi. Et on voyait quand même que les commentaires sur le poids viennent créer ces insatisfactions-là qui peuvent éventuellement mener justement à avoir de moins bonnes habitudes de vie.
D'accord. En même temps, il faut faire une distinction, me semble-t-il, entre un enfant qui est à la garderie ou qui est au primaire ou qui est au secondaire et qui se fait dire par d'autres étudiants à l'école « t'es trop maigre, t'es gros, t'es toutoune » et un médecin, un professionnel de la santé, dans le cadre d'un cabinet médical qui évoque la possibilité de faire plus de sport, de mieux manger, plus de légumes, moins d'aliments transformés. Il me semble que c'est pas du tout la même chose. Donc, vous dites c'est pas pour les protéger ou les surprotéger. J'ai quand même l'impression un petit peu qu'on surprotège les enfants en n'ayant pas cette discussion-là avec eux, en ne les impliquant pas dans la discussion comme s'ils étaient des petits objets fragiles qui risquaient de se casser.
En fait, c'est qu'il faut comprendre que, si on parle justement de bouger plus, au niveau des habitudes alimentaires, si on parle des enfants en bas, ben, en fait, pas adolescents, là, donc à l'adolescence, c'est une autre chose, là, mais les enfants avant le primaire, c'est les parents qui vont venir créer un encadrement. Donc, nous, on veut pas mettre ça sur les épaules de l'enfant, de venir lui dire, c'est important que tu manges mieux, c'est pas à l'enfant à prendre ces
décisions-là. Je comprends.
C'est aux parents à mettre un environnement dans le fond qui va être favorable à l'adoption des saines habitudes de vie. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on veut que ces discussions-là se fassent avec le parent pour venir valider qu'est-ce qui est fait. Est-ce que, si ensuite, l'enfant, lui, a des préoccupations, et ça se fait que l'enfant ait des questions, ça se fait que l'enfant ait des préoccupations, là, à ce moment-là, on veut y répondre, puis c'est ce qu'on veut avec l'alerte, c'est venir sensibiliser. Ce n'est pas « je ne parle plus de poids, je ne parle plus que c'est important de bien manger », ce n'est pas ça du tout. Mais s'il n'y a pas de préoccupation, si je discute avec le parent, puis je vois que le parent, il y a une variété qui est offerte à l'enfant, il bouge, mais que l'enfant se retrouve quand même peut-être dans le bas, parce que là, quand on parle de ça, on ne parle pas juste de nos cocos qui sont dans le haut des courbes de croissance. Mais
oui, c'est pour ça que j'ai dit les enfants trop maigres. Oui, oui, tout à fait. Ouais, non, on comprend que c'est dans les deux cas.
Exactement, ceux qui peuvent se retrouver aussi dans l'autre sphère, bien, nous, ce qu'on veut, dans le fond, c'est ces discussions-là restent le plus possible entre adultes, puis qu'après ça, ce soit le parent qui réponde et qui puisse avoir ces discussions-là. Puis là, c'est là que nous, on a plein d'outils là, à donner aux parents aussi pour aborder le sujet d'image corporelle, le sujet de développement des saines habitudes de vie. Mais cette discussion-là, on veut qu'elle se fasse, comme je disais, entre le parent et le médecin, si pour venir les préserver, parce que
oui, ben vous venez dire, oui, vous dites les préserver, mais c'est là que on va peut-être différer, Madame Larivière, c'est que préserver, ouais. À force de vouloir préserver les enfants, on les met, selon moi, dans une petite bulle. Je pense que des enfants, c'est pas non plus ils sont pas faits en chocolat. Et je pense qu'ils sont capables d'entendre des discussions entre deux adultes qui disent, les aliments industriels, les aliments transformés, c'est pas bon pour la santé, le sucre, c'est un poison, c'est dangereux. Il faut, tu sais, je veux dire, je vois pas en quoi. C'est parce que quand vous utilisez des mots comme préserver, moi, je suis un peu réticente. Je pense que les enfants, ils sont capables d'entendre une discussion entre adultes où on va parler de choses sérieuses, de choses importantes qui concernent leur santé. De quoi faut les préserver, Mme Larivière? C'est ça que je comprends pas.
Ben, nous, ce qu'on veut, c'est les protéger pour qu'ils puissent maintenir une image, donc une perception d'eux qui va être saine le plus longtemps possible, parce qu'on le sait qu'une image corporelle qui est saine, à long terme, c'est la porte d'entrée, et là, j'utilise les mots de mes collègues du groupe Équilibre, mais c'est la porte d'entrée vers l'acquisition des saines habitudes alimentaires. J'ai pas besoin de dire à un enfant que le sucre, c'est du poison, parce que l'enfant de 5 ans, il comprendra pas ce que je viens de lui dire, puis lui, il a du plaisir à manger, je sais pas, son morceau de chocolat ou ses jujubes, puis là, il va associer. Ça, c'est un discours qu'on n'a pas besoin d'avoir avec les enfants. Après ça, si le parent veut aborder, puis les valeurs de chaque famille, ça leur appartient. Nous, le but de cette lettre-là, ce n'était pas, comme vous disiez, de dire on parle plus de poids, puis il faut pas parler du poids des enfants, mais on veut que ça soit fait, pas en la présence des enfants, parce que ces commentaires-là, vous le disiez, là, oui, il y en a à l'école, puis c'est pas la même chose dans le bureau du médecin, mais c'est quand même différentes formes de stigmatisation. Et ces formes-là créent, comme j'expliquais, des petits débuts, des fois, de préoccupation à l'égard du poids, à l'égard de son corps. On remarque qu'il y a une différence avec notre corps, et c'est là des comportements moins sains par rapport à la santé, donc l'activité physique qui peut être fait des fois, peut-être pas par le plaisir de bouger, ou comme je disais, on tenait à surveiller ce qu'on mange. Donc, la relation avec les aliments commence aussi à devenir de moins en moins saine. Et là, ça, ben à long terme, c'est pas bon pour la santé ni physique ni mentale de nos enfants. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, c'est pour ça que cette lettre-là, elle sert à essayer de comme j'expliquais, là, de les...
Oui,
de les
oui, vous l'avez expliqué, vous l'avez expliqué plusieurs fois, mais moi, je veux juste qu'on comprenne, donc c'est une lettre que les parents impriment, qui donnent ouais. aux médecins. Il doit y avoir des médecins qui disent, ben c'est parce que c'est pas vous qui allez me dire comment je fais mon métier. Est-ce que vous avez ce type de réaction-là?
Jusqu'à maintenant, nous, les commentaires qu'on a reçus de différents médecins, c'est très positif. Donc, nous, on est très contents de ça. On a eu aussi des remarques, en fait, là, des commentaires constructifs. Donc, on va continuer d'améliorer la lettre.
Comme quoi, par exemple?
Un des commentaires qu'on avait, c'est l'aspect, puis ça, c'est ça qu'on en est tous en fait conscient. Quand on écrit dans notre lettre, si jamais vous voulez qu'on en discute, on peut se prévoir un moment à part, là, quand l'enfant n'est pas là. On est bien conscient que les médecins n'ont pas non plus 45 minutes pour faire, puis nous appeler, puis nécessairement. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qui peut être revu. On est conscient de ça. L'objectif, nous, c'est qu'on veut travailler. Puis là, on a dit pour les médecins, mais c'est pour tous les professionnels de la santé qui vont, justement, être en contact avec les enfants, c'est de pas venir mettre trop d'importance juste sur le poids, mais de venir questionner sur l'ensemble des habitudes de vie générales de la famille puis de l'enfant. C'est le but de cette lettre-là.
D'accord.
C'est sensibiliser. C'est pas de venir dire au médecin quoi faire dans son bureau. Là.
Oui, ça fait plusieurs fois vraiment que vous nous le répétez. Je pense qu'on a bien saisi. Est-ce que vous considérez, Madame Larivière, qu'il y a une épidémie d'obésité en ce moment au Québec, surtout chez les jeunes? Est-ce que ça vous préoccupe?
J'aime pas le terme épidémie, là. Donc,
pourquoi?
Oui, on voit que les enfants.
Une pandémie, choisissez le mot que vous voulez, ouais.
Ben, en fait, moi, j'aime pas le terme parce que je trouve encore une fois que c'est stigmatisant. Oui, on voit que les enfants sont plus gros. On voit que, comme pour la société en général, les déterminants du poids sont beaucoup plus larges que juste qu'est-ce qu'un enfant mange, comment un enfant bouge. Donc, je pense que nous, dans notre pratique, on vient voir vraiment tous les aspects pour venir outiller les parents.
Je comprends. Mais vous aimez pas le mot pandémie, vous aimez pas le mot d'épidémie. Est-ce que vous considérez en ce moment au Québec, en 2023, qu'il y a un problème d'obésité chez les jeunes? La question est quand même assez simple. Je veux dire, il y a plein de spécialistes qui tirent la sonnette d'alarme en disant il faut faire quelque chose. On a des enfants obèses. Je vous pose juste la question, oui ou non. Pensez-vous qu'il y a une situation, je ne sais pas le mot que vous voulez, là, situation, problème, une réalité qui est l'obésité des jeunes au Québec, oui ou non?
Oui, il y a une réalité que les jeunes sont plus gros.
Sont plus gros. Et ça cause des problèmes de santé, parce que l'obésité, c'est pas juste être gros, c'est être en surpoids, et ça cause des problèmes de santé. Non?
Oui.
Bon.
Oui, mais là, je pense qu'on n'aura pas assez d'une entrevue de 5 minutes pour venir faire. Puis je suis pas la spécialiste non plus de l'obésité, là, qui est un terme que je n'aime pas non plus, parce que pour
ah
moi...
Ah non? Pourquoi?
Parce que c'est un terme qui est très stigmatisant, puis moi, j'aime pas étiqueter les enfants avec qui je travaille. Moi, je travaille à l'adoption de saines habitudes de vie.
Oui, mais c'est parce que l'obésité, Madame Larivière, l'obésité, c'est un mot qui est pas... Il faut arrêter à un moment donné avec « il faut avoir peur de stigmatiser ». L'obésité, c'est un terme scientifique, un terme médical pour décrire une condition médicale. Je veux dire à quelqu'un « vous avez le diabète », c'est pas la stigmatiser, c'est dire, tu as une condition médicale qui s'appelle le diabète, on va soigner, on va donner des médicaments, on va te donner des traitements. Dire à quelqu'un, tu souffres d'obésité, c'est pas la stigmatiser, c'est reconnaître une réalité. Mais comme vous le dites, on va peut-être manquer de temps, mais je pense qu'à un moment donné, il faut appeler un chat, puis il faut appeler les choses par leur nom sans avoir peur tout le temps de, tu sais, marcher sur des œufs puis mettre des gants blancs. Je veux dire, un enfant obèse, ça existe et il y en a de plus en plus.
Oui, puis on peut outiller les parents pour justement leur permettre de, peu importe le poids de leur enfant, de leur inculquer un environnement où ils vont pouvoir développer une image corporelle saine et une relation saine avec la nourriture.
Parfait. Bon, je pense qu'on ne sera pas nécessairement d'accord sur les moyens d'y arriver. Mélissa Larivière, vous êtes diététiste nutritionniste, donc j'invite tous les parents que ça intéresse à aller télécharger cette lettre-là si c'est la façon qu'ils ont choisi pour interagir avec un professionnel de la santé. Merci beaucoup, Madame Larivière.
Merci à vous. Au revoir.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
Alors, l'émission Révolution est un immense succès et chaque fois qu'il y a des changements à l'émission ou l'ajout de nouvelles personnes, ben, ça fait jaser. Ce genre de choses dont on parle devant la machine à café ou devant la fontaine dans les bureaux, et ben là, il va y avoir une nouvelle chorégraphe et directrice artistique. Elle s'appelle Mel Charlot. On va parler tout ça avec Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours. Bonjour Patrick.
Bonjour Sophie, ça va bien?
Ben, moi, ça va très bien. Tu sais que Révolution, c'est le genre d'émission que les gens écoutent en famille. Et des fois, il y a des gens, c'est surprenant, tu penserais pas qu'ils sont des amateurs de Révolution. Ben, mon collègue Benoît Dutrisac est un immense fan. En fait, je pense qu'il est président du fan club de Révolution. Comme quoi, qui aurait cru qu'un vieux grognon aimerait une émission de danse à la télé?
Tu pourrais être le vice-président du fan club. C'est pas mal mon émission préférée aussi. Je suis... un fan, c'est une émission qui m'émeut, c'est une émission que j'aime et j'ai la chance de chaque semaine de pouvoir parler aux candidats et tout. Donc, je suis un privilégié qui voit à l'avance les émissions et je suis un fan de Révolution.
Alors, parle-moi donc, un peu de Mel Charlot. Présente-la nous, dis-nous qui elle est et pourquoi, en quoi c'est important qu'elle se joigne à l'émission.
Je pense que cette fille-là amène un vent de fraîcheur. On est quand même à la 5e saison de Révolution. Les codes d'écoute sont au rendez-vous et tout. Mais je pense qu'après 5 ans, c'est peut-être le temps un peu d'amener un nouveau souffle, d'amener une nouvelle image et tout. Et je pense que Mel Charlot, écoute, je regardais, je la connaissais pas tant, cette fille-là. Je la connaissais un peu de nom. Je lui ai parlé tout à l'heure. Quelle fille allumée.
Ah oui.
Adorable. Je suis déjà sous le charme de la fille. Elle est adorable. Elle est déjà de retour au Québec. Elle dit, Patrick, je suis dans ma première tempête cette semaine et tout. Donc, c'est le retour au coin et tout. Là, je parlais avec la fille. Elle a vraiment un parcours intéressant. Donc, cette fille-là a vécu pendant quelques années à L.A. Elle a travaillé avec des noms comme Lizzo, Beyoncé, Kanye West, Busta Rhymes, Pharrell Williams, Mariah Carey, Cardi B, P. Diddy, pour ne nommer que ceux-là, et des émissions comme The Masked Singer, le chanteur masqué au Québec. Lip Sync Battle, So You Think You Can Dance, I Can See Your Voice. Donc, c'était là, ne sont pas... Et je dis, qu'est-ce qui t'occupe en attendant que tu commences avec Révolution cet été? Elle a dit, je fais le Centre Bell avec Lizzo le 4 mai. C'est comme, wow! Quelle belle entrée en matière! Donc, cette fille-là, je suis déjà sous le charme, puis je trouve que tant rien enlevé aux Twins, je trouvais que des fois, ils prenaient trop de place. Des fois, je me souviens, il y a un angle de caméra où des fois, tu voyais une tête apparaître devant la performance des danseurs. Et c'était un des
c'était
Twins.
C'était un des Twins, oui, c'est ça.
Mais les avoir en entrevue, c'était toujours un exercice de style et c'est aussi un exercice de patience. C'était pas les plus modestes et tout. Mais ils ont fait un excellent travail. C'est des dieux de la danse. Mais regardez des vidéos de Mel Charlot et tout, je pense que on a une belle pointure de juge qui va être un bel ajout à Jean-Marc Généreux. Et Laetitia Bouchard. Donc, et d'ailleurs, je lui ai demandé, je dis, Mel, quand on reçoit un appel de Révolution, qu'on te propose de prendre un des prestigieux fauteuils de cette émission-là, comment on agit? Et voilà ce qu'elle a eu à me dire.
Je peux crier? je me sentais honorée, c'est sûr. C'est un anglicisme, je me sentais vue. Ça fait longtemps que je travaille fort, ça fait longtemps que je prends des risques et que je fonce pour non seulement ma carrière, mais pour ma passion. Donc, de pouvoir être en quelque sorte reconnue dans ma ville natale, puis d'avoir une opportunité comme ça de pouvoir redonner dans une aussi belle position, puis entre deux super beaux juges aussi, c'est vraiment un cadeau.
Ben, écoute, je suis en ce moment même sur son compte Instagram. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quelqu'un qui ose au point de vue vestimentaire. Il n'y a pas une photo où elle a les cheveux de la même façon. Il y en a une, elle a des tresses noires et blondes. Il y en a un autre, elle a des lulus. Un autre a des chignons. Écoute, un autre, c'est vraiment l'afro complètement libéré, assumé, éclaté. Je pense qu'on... c'est comme une boule d'énergie dans le sens le plus positif du terme. Là.
Tout à fait mon genre de personnage. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va apporter à cette cinquième saison, parce que, disons-le, on a une cinquième saison de Révolution. Ça a été annoncé aujourd'hui. Donc, avec un beau vent de fraîcheur qui va être cette Mel Charlot. Et aussi, qui dit nouvelle saison, dit appel de candidature. Donc, en ce moment, l'équipe de Révolution recrute. Donc, pour les danseurs en herbe, révolutiontva.ca.
Ouais, ben j'ai même pas fait la liste au complet de ses différentes coiffures. Écoute, elle a comme deux tresses de chaque côté, avec plein d'élastiques, un élastique rouge, un bleu, un jaune, un vert. Écoute, c'est un feu d'artifice de couleurs et d'énergie. Je pense que ça va être un juge, enfin un coach. Je sais plus trop comment on les appelle là, parce que entre les émissions, les différentes émissions, ces gens-là ont à chaque fois des titres ou des dénominations différentes. Donc, ben je pense. Oui, juge dans ce cas-là.
C'est juge, la voix, c'est coach.
Bon, merci de la distinction, monsieur le spécialiste Est télé-réalité. Et ben écoute, il y a plein de photos d'elle en train d'allaiter son enfant. Et en tant que ferveur ambassadrice de l'allaitement, je trouve ça absolument génial. Donc, Mel Charlot, bienvenue dans l'équipe. Puis, ben écoute, tu parleras à Benoît Dutrisac pour voir lequel des deux devrait être le président du fan club de Révolution. Merci beaucoup, Patrick.
Bonne journée, Sophie.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Sophie Durocher.
Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information.
C'est tout en anglais.
Sophie Durocher.
C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
Le Québécois moyen était...
Guy Nantel.
Quelqu'un qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben je veux pas perdre ma job. »
La rencontre.
Cet asservissement, cette servitude volontaire.
C'est quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis allé à l'urgence, là, j'ai attendu 6 heures, OK? »
La rencontre. Nantel. Du Rocher.
Bonjour Guy, tu nous parles aujourd'hui de Webster, donc son vrai nom Ali Ndiaye, rappeur militant antiraciste. Pourquoi tu nous parles de lui aujourd'hui?
Ben écoute, dans Le Devoir, j'ai fait le saut parce qu'on fait l'éloge d'un livre que Webster donc a traduit, en fait qui est un traité philosophique américain. En fait, c'est un essai qui date quand même de 1997. Et donc, Webster s'est dit, je vais traduire ce livre-là en français. Et ce livre-là repose sur l'idée, en fait, le postulat.
On va dire le titre du livre, ça s'intitule « Le contrat racial ».
Oui, c'est vrai. Excuse-moi, j'aurais dû te le dire.
Il n'y a pas de problème.
Donc, le contrat racial, ce que ça dit, c'est que les sociétés libérales occidentales actuelles, donc, entre autres, notre société à nous, reposent sur un pacte racial pour maintenir la suprématie blanche au mépris de tous les autres groupes racisés dans le monde. Autrement dit, le monde occidental reposerait actuellement sur le socle du racisme blanc, qui est un pléonasme, soit dit en passant, parce qu'on sait que dans cette logique-là, le racisme n'est que le produit exclusif des Blancs.
Mm-hmm.
Et ce racisme-là et évidemment démontrer envers quiconque n'est pas blanc. Et déjà, à la présentation du premier chapitre, Webster écrit « Quand les Blancs disent justice, ils veulent dire juste nous. »
Voilà.
Donc, ça sous-entend la justice juste pour les Blancs.
Oui, alors, faut comprendre, donc, comme c'est une traduction, c'est un jeu de mots qui est quand même assez subtil en anglais. « When they say justice, they mean just us. » Donc, mm-hmm. Traduit, ça a moins d'impact. Quand c'est dit en anglais, on comprend que les Blancs ou les dominants se sont accaparé la justice et qu'ils la gardent pour eux. Ce qui est quand même assez particulier, c'est qu'il y a tout un article sur lui dans Le Devoir, alors qu'il a traduit un essai de philosophie. Il n'est ni traducteur ni philosophe, mais la façon dont Le Devoir le présente, c'est comme si ce gars-là était un grand spécialiste de la chose, alors qu'il a juste traduit un livre. C'est quand même assez particulier, mais on comprend que l'idéologie qu'il y a dans le livre le rejoint énormément. Et toi, c'est cette idéologie-là que tu veux critiquer.
Oui, ben écoute, à la limite, je te dirais qu'il en est quasiment le porte-parole parce qu'il reconnaît lui-même qu'il a eu besoin d'aide de professionnels pour pouvoir lui expliquer des concepts philosophiques qui sont dans ce livre-là. Donc, on voit un petit peu, en tout cas, à mon avis, le manque de sérieux de la chose. Il faut d'abord dire une chose à Webster, c'est que les sociétés libérales actuelles, ben ça, elles reposent sur la logique des Lumières, qui est un courant philosophique qui est arrivé il y a environ 400 ans. Et ça donne que dans les 400 dernières années, les puissances blanches se sont essentiellement battues entre elles, puis elles ont cherché à se dominer les unes les autres, bien plus qu'elles ont livré des combats ailleurs dans le monde.
Bon
c'est vrai qu'il y a eu le colonialisme qui est odieux, fait par les Blancs essentiellement assez récemment, mais ce serait oublier l'histoire de ce continent-là, en Afrique entre autres, avant le colonialisme, qui a reposé sur des guerres tribales durant des siècles, donc des peuples noirs qui ont toujours cherché à dominer d'autres peuples noirs. Puis c'est la même chose pour l'esclavage. C'est l'esclavage, le commerce triangulaire, c'est une abomination de 12 millions d'esclaves. C'est scandaleux, c'est dégueulasse, puis il faut le dire tel que c'est. Sauf que les Blancs, c'est pas eux autres qui ont inventé le principe. L'esclavage date d'au moins 5000 ans, et les traces les plus anciennes, ben ça remonte à, attention Webster, ça va faire mal, l'Afrique et le Moyen-Orient.
Oui.
Si Webster veut débattre du phénomène d'esclavage, ce qui serait honnête, ce serait quand même pas de prétendre que c'est le fruit des sociétés libérales occidentales actuelles, mais plutôt que ces sociétés-là ont imité un modèle largement répandu à partir des pharaons en Égypte qui souvent avaient la peau noire, soit dit en passant, puis ensuite de ça en Perse, puis après ça la traite arabo-musulmane, donc des Arabes qui ont fait des esclaves noirs, 17 millions. Puis ensuite, attention Webster, ça va encore faire mal, la fameuse traite intra-africaine, c'est-à-dire 14 millions de Noirs qui ont été faits esclaves par des Noirs.
Oui, ben c'est ça. C'est, j'allais dire, mais finalement, tu m'as devancé. Vous avez juste à taper, vous allez sur Google, n'importe quoi, vous tapez esclavage arabo-musulman, vous allez trouver plein d'articles scientifiques qui documentent ça. Là, c'est pas une invention des méchants suprémacistes blancs. C'est que quand quand on s'aventure sur le chemin de l'analyse historique ou de l'analyse philosophique, il faut savoir de quoi on parle et il faut aussi être prêt à recevoir des contre-arguments. Donc, Webster, il en a fait son beurre, il en a fait son fond de commerce de parler de l'esclavage et de constamment rappeler aux Québécois que oui, mais vous ici aussi, vous avez fait de l'esclavage, comme si au Québec, on avait fait de l'esclavage dans les mêmes proportions, avec le même systémisme que ce qui a été fait dans le sud des États-Unis, ce qui n'est pas le cas. Et bien sûr, il n'aime pas se faire rappeler toutes ces autres formes d'esclavage où c'était des gens avec la peau qui n'était pas blanche, qui étaient les oppresseurs et non pas les opprimés. Voilà,
comme je te dis, même entre Noirs, en Afrique, il y a eu quand même 14 millions d'esclaves qui ont été faits. Mais qu'on se comprenne bien, l'idée, c'est pas de se dire, de se comparer, puis de se dire on est moins pire que les autres, donc il n'y a rien là.
Non.
Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait des essais qui parlent de ce qui s'est fait par les Blancs. Mais tout ce que je dis, c'est qu'il faut les mettre dans le contexte, les raisons qui ont mené à ça, ces sociétés-là. Évidemment, aussi expliquer que c'est plus le cas aujourd'hui, parce que tu sais, dans l'article, tu dis ça, puis tu dis, ben écoute, là, la manière qui sous-entend, c'est, oui, comme tu le disais, Sophie, il y a eu aussi des esclaves en Nouvelle-France, puis la mentalité suprémaciste blanche existait ici aussi. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit, le véritable humain prend donc une couleur et il est blanc, puis ça laisse sous-entendre qu'il parle d'actuellement, tu sais. Puis moi, je me dis, écoute, là, tu regardes ça, là, il y a eu 4000 esclaves surtout des Autochtones, pas 12 millions d'esclaves comme aux États-Unis. Et ce qui est bien, bien important de dire, c'est que le fameux livre, le Deux siècles d'esclavage au Québec, ça, c'est Marcel Trudel qui est un expert là-dedans. Puis 1200 des 1400 esclaves noirs de la Nouvelle-France sont arrivés sous le régime anglais. Mmh. Fait que c'est toutes des choses qui sont importantes de mentionner
oui,
si on veut parler de cette chose-là. T'sais.
Et on peut aussi, tant qu'à être dans les rappels historiques, rappeler quand même le rôle crucial que le Canada, à l'époque, je pense qu'on faisait référence au Bas-Canada, évidemment, le rôle crucial qui a été joué par des alliés et le fameux phénomène du Underground Railroad, donc où c'était tout un réseau institué de l'autre côté de la frontière, donc de notre côté de la frontière, ici au Canada, où des gens, au péril de leur vie, prenaient des risques et permettaient à des esclaves américains de quitter le territoire et de s'échapper. C'est pour ça qu'on appelait ça un Underground Railway, donc un chemin de fer souterrain, d'une certaine façon, pour les enlever de l'esclavage. Donc, c'est important, toutes ces mises en contexte-là, toutes ces discussions-là, qui sont pas justement d'un extrême ou d'un autre, ben, font partie de la discussion. Moi, quand je vois les mots suprémacisme blanc, quand je lis mon petit devoir le matin en buvant un café bio-équitable qui a été ramassé par des enfants prépubères dans le fin fond du Costa Rica, je m'étouffe un peu dans mon café.
Ben, tu sais, par exemple, si tu prends le cas autochtone, on nous rappelle constamment qu'il y a eu des esclaves autochtones, mais ce qu'on dit jamais, c'est que les Autochtones, entre eux, avaient aussi des esclaves autochtones. C'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, si on ne parle pas de ça, on a l'impression que les méchants blancs sont arrivés et qui ont inventé l'esclavage, alors qu'en réalité, les guerres entre autochtones, on peut penser entre autres les Iroquois avec les Hurons, ben écoute, ça a fait 25 000 morts et une des raisons pour lesquelles ils se battaient, parce qu'on n'arrête pas, là, tu sais, même Webster présente ça comme on a volé les terres des Autochtones. Mais la réalité, c'est qu'il parle du génocide autochtone, entre autres. Donc, le génocide autochtone, c'est essentiellement les Espagnols, puis les Anglais. Mais, tu sais, ici, quand Champlain est arrivé, ben, il y avait vraiment un contrat de réciprocité qui était la base de ça. Et que faut pas oublier une chose, c'est que, oui, les Français en ont profité avec la traite des fourrures. Mais ils ont aussi amené des vêtements chauds, des couvertures, des outils, des pelles, la métallurgie, la roue, le bétail, les chevaux. C'est toutes des choses qui n'étaient pas encore connues par les Autochtones. Et si tu avais demandé aux Autochtones de l'époque, est-ce que vous souhaitez que les Blancs retournent chez eux? La réponse aurait probablement été non, parce qu'ils faisaient du commerce avec eux autres et ça améliorait aussi leur vie.
Voilà.
Alors, tout ce que j'essaie de dire, c'est que c'est plus nuancé et complexe que de dire les Blancs sont arrivés, ils ont volé les terres, ils ont fait un génocide. Si on parle de même, on ne dit pas la vérité, puis c'est ça qui est embêtant.
C'est très intéressant que tu fasses ce parallèle-là entre deux peuples qui ont chacun attiré avantage l'un de l'autre, parce que c'est la définition même de ce qu'est un contrat social. Parce que le livre que Webster a traduit, qui s'intitule donc « Le contrat racial », c'est un clin d'œil à cette notion-là de contrat social. C'est quoi un contrat social? Ben, c'est un principe qui remonte à Rousseau, mais de façon plus générale, c'est juste de dire que pour qu'une société fonctionne de façon équilibrée, il y a comme un accord tacite, un accord qui n'est pas écrit entre les différentes composantes de cette société-là pour dire, regarde, on va coexister, on va tirer mutuellement avantage à vivre ensemble. Donc, alors lui, ce qu'il dit, enfin ce que dit l'auteur du livre qui l'a traduit, c'est que c'est un contrat racial, c'est-à-dire que on peut pas fonctionner autrement que par les races entre elles s'oppriment et c'est comme ça que la société peut fonctionner. La société pourrait pas fonctionner s'il y avait pas ce contrat racial. Donc, c'est la prémisse. Mais on a le droit de la remettre en question, cette prémisse-là.
Ce qui serait important aussi, ce serait peut-être de parler aussi des formes modernes d'esclavage, parce que moi, je veux bien qu'on parle tout le temps du passé, mais ce serait le fun de parler d'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit au Québec versus les formes modernes d'esclavage. Ben, c'est de 25 à 50 millions de personnes, selon l'ONU en ce moment, à travers le monde qui sont victimes d'esclavage moderne. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire prostitution, travail clandestin, travail des enfants, puis même carrément de l'esclavage traditionnel, des gens qui sont pas payés puis qui sont forcés à travailler. Et puis ça, ben en ce moment, c'est pas moi qui l'invente, là, c'est de 25 à 50 millions de personnes qui sont victimes, essentiellement dans les pays d'Afrique et d'Asie.
Merci. Alors, voilà, c'est comme ça que ta chronique va se conclure, voilà. Parce que c'est assez percutant. Merci.
Merci à toi.
Au revoir.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Sophie Durocher.
Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un tout petit extrait, mais vous allez en convenir, très, très enlevant, de la nouvelle chanson, mais aussi du nouveau clip de Sam Smith. Ça s'intitule « I'm not here to make friends ». En fait, « I'm here to have a lover. I want to find a lover ». Alors, c'est pas tellement la chanson, c'est le vidéoclip qui a vraiment provoqué beaucoup de réactions. Il y a des gens, disons, appelons-les des conservateurs, qui ont dit que c'était de la pornographie, que c'était vulgaire, que c'était hyper sexualisé. J'avais envie de parler tout ça avec Raphaël Provost. C'est sa deuxième visite en studio. J'ai beaucoup aimé les discussions qu'on a eues ensemble. Raphaël est directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Bonjour, Raphaël.
Bonjour, merci de me recevoir encore une fois.
Ben, ça me fait plaisir. Sam Smith, il y a 4 ans maintenant, a fait son coming out en disant « Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je suis non-binaire. »
Exact.
Et il y a beaucoup de gens qui considèrent que la raison pour laquelle son vidéoclip se fait tant attaquer, c'est parce que son identité de genre dérange. Êtes-vous aussi de cette opinion-là, Raphaël?
Moi, je suis de l'opinion que je ne comprends pas pourquoi ce vidéoclip dérange autant.
Moi
parce que
plus.
Pour moi, un, c'est magnifique. La chanson, elle est magnifique. Et en plus, l'extrait que vous avez mis tantôt, « Je ne suis pas ici que pour me faire des amis ». Ça résume exactement tout. Par contre, c'est vrai que la non-binarité, c'est complexe et c'est très peu compris par les gens. Pour les gens qui nous écoutent en ce moment, là, si je peux me permettre un 20 secondes, ce que peut signifier, puis ça, c'est avec mes propres mots, je n'ai pas la science infuse sur ce que c'est la non-binarité, mais c'est une personne qui ne se considère pas ou pas peu du tout dans le spectre général de femme ou homme. Donc, peut-être un peu des deux, peut-être pas du tout des deux, et c'est ça la non-binarité. Donc, on nous identifie comme femme ou homme dans le modèle traditionnel qu'on a actuellement. Et les personnes non-binaires, c'est des gens, justement, en vieillissant, se découvrent que c'est cette case-là, femme ou homme, qui est très
ne
précise.
Ne leur convient pas.
Exactement.
Mais c'est son cas. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, si je peux
Absolument.
Me permettre. C'est-à-dire qu'ils remettent même en question, certains, peut-être pas tous, remettent en question même l'existence de ces deux formes d'identité. Donc, c'est pas juste vous m'offrez une porte à gauche, une porte à droite, je veux aucune de ces deux portes-là. Mm-hmm. C'est aussi pourquoi vous mettez juste deux portes. C'est aussi un petit peu ça. Mais quand même, continuons dans ce vidéoclip. Donc, à un moment donné, on voit Sam Smith porter des vêtements plus associés à une femme, donc un corset, des bijoux, beaucoup de bijoux.
Magnifique.
Et à un moment donné, il a des espèces de pastilles sur les seins. Tout ça, c'est un truc plus érotique, vraiment, vraiment habituellement associé aux femmes, des talons hauts, etc. Et tout ça est très, je pense, interpellant pour des gens qui sont justement plus dans une binarité parce qu'il porte tout ça et il a une barbe.
En plus.
Et moi, je pense que c'est ça qui dérange les gens. Ils disent, ben voyons, qu'il n'y a pas d'allure, il y a une barbe puis il porte des talons hauts. C'est comme on n'arrive pas à réconcilier, en excluant la personne qui parle, arrive pas à réconcilier les deux.
Oui, mais tantôt, je parlais de cases. C'est exactement ça. Les gens aiment mettre les gens dans des cases. Donc là, si au moins c'est un homme qui porterait des vêtements de femme, les gens diraient « Ah, c'est un homme gay qui porte des vêtements de femme. » Dans ce cas-ci, c'est pas le cas. C'est une personne non-binaire qui a envie de s'exprimer avec des vêtements qui rend cette personne-là bien. C'est des vêtements qu'on a vus des millions de fois dans des vidéoclips avant.
Madonna, on l'a vu,
Madonna,
je sais pas combien de fois.
Madonna aussi, à l'époque, quand elle avait fait ça, des choses comme ça, ça choquait les gens. Et là, justement, ça choque. Ben, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et moi, ce que j'ai trouvé magnifique avec ce vidéoclip-là et la réaction de beaucoup de gens sur les plateformes, parce que je suis allé voir la réaction des gens sur les médias sociaux, beaucoup de jeunes et moins jeunes disent « Enfin, voici des modèles qui me ressemblent. » Parce que ce qu'on voit là, c'est la pointe de l'iceberg de tout un univers artistique qui existe, qu'on ne voit moins.
Ouais.
Ça, il existe des scènes avec des gens qui sont comme ça depuis des dizaines d'années.
Ben oui, mais je veux dire, écoute, David Bowie, c'est comme...
On le louangeait pour ça. Et c'est là où moi, ça me choque personnellement, puis beaucoup de gens. David Bowie a été louangé pour faire des choses comme ça.
Ouais, pas tout le monde.
Pas tout le monde, mais quand même.
C'est facile de faire du révisionnisme historique, puis de dire, à cette époque-là, les gens étaient... Ben, il y avait quand même aussi des malaises. Il y avait des gens qui n'étaient pas à l'aise avec le côté androgyne de David Bowie, ou plein d'autres gens à travers les siècles, des femmes qui s'habillaient, qui portaient des vestons. C'est pas d'hier que les gens mélangent ou ont une sexualité ou une identité de genre qui est fluide. Là.
Exact. Non, c'est mon droit, on n'a rien inventé.
Bon.
Puis c'est pas nouveau, ça date de milliers d'années, tous ces concepts-là de la sexualité, dans ce cas-ci, de toute la question d'identité de genre. Mais ce qui, moi, me choque, c'est c'est ce qu'on lui réserve à cette personne-là directement et ce qu'on ne réserve pas. Par exemple, on a eu Harry Styles récemment, qui est un chanteur très populaire auprès de tout le monde.
Et qui est hétéro.
Qui se dit hétéro, en tout cas, ou c'est l'étiquette qui lui convient.
Mais qui s'habille, selon des codes vestimentaires, plutôt féminin.
Il fait la cover de tous les magazines, il va sur tous les plateaux, autant les garçons que les filles le vénèrent. Et là, on a quelqu'un qui fait la même chose, avec un corps différent.
Et là,
ça choque.
Donc, il est en surpoids, Sam Smith, pour rester
poli.
Surpoids,
oui, il a un poids différent de ce qu'on est habitué de voir.
Il a été plus mince, et là, il est plus rond. OK? Et là, il y a plein de gens qui disent, s'il était mince et qu'il n'était pas queer, là, les gens l'accepteraient plus. En même temps, moi, j'ai regardé le clip, je l'ai regardé trois fois de suite, et j'ai l'impression que Sam Smith, là, il a fait ce clip-là aussi pour s'amuser avec des codes. Tu sais, à un moment donné, il est accroché au chandelier.
Pourquoi pas?
Non, mais c'est pour ça, mais c'est aussi pour défaire tous ces clichés-là.
Exactement.
Combien de vidéos on a vues ou de films, des trucs avec des bonnes femmes accrochées au chandelier prenant des poses cochonnes. Oui. Lui, il a dit, c'est parce que vous rendez-vous compte à quel point c'est niochon d'aller s'accrocher au chandelier. J'ai l'impression, je vois quelque chose dans son regard où c'est comme, il s'amuse, puis il y a un côté burlesque. À un moment donné, il est, donc il porte un corset, puis il y a comme 8 êtres humains autour de lui qui sont tous en corset à 4 pattes dans une position cochonne. Mais quand on regarde de plus près, c'est des hommes.
Oui.
Bon, puis là, je me dis, dans le fond, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ça aurait été juste des femmes, puis ça aurait été un gars au milieu entouré de femmes à 4 pattes.
On a des vidéoclips en tête, on les voyait quand on rentrait de la maison à la télé.
On en voyait plein. Bon, là, il s'amuse avec ces codes-là, donc... Il faut dédramatiser tout ça. C'est juste un gars qui s'amuse avec... pas un gars, en tout cas.
Dans ce cas-ci, c'est une personne non-binaire.
Mais vous comprenez, vous voyez, je me suis trompée, Raphaël.
Oui.
Puis je trouve que c'est pas grave que je me sois trompée parce que le gars, il a une barbe.
Encore
puis là, je regarde...
vous dites gars, personne non-binaire.
Oui. Non, mais c'est parce que, Raphaël, soyez patient.
Absolument.
Je regarde la photo d'un individu qui a un gros paquet... il porte un espèce de petit bikini, puis il y a un gros paquet, puis il y a une barbe.
Mm-hmm.
Je m'excuse, mais 99,9% des gens vont voir cette image-là et vont dire « c'est un gars ». Après que lui dise « moi, je reconnais pas vos catégories, je respecte Sam Smith dans cette décision ». Mais je dis « j'ai le droit, moi aussi, comme individu, de regarder quelqu'un qui a un esprit de gros paquet entre les jambes et qui a une barbe, et de me dire « hey, mon réflexe, c'est de me dire que c'est un homme, je pense pas que ce soit... » intolérant ou complètement débile de penser ça non plus.
Il faut juste pas invalider Sam Smith justement par rapport à ça. C'est qu'on a trop tendance à associer un corps et tous ses attributs à l'identité de genre. C'est deux choses complètement différentes. Puis qu'on a tendance à faire. Et votre réflexion, et si vous l'avez, je peux à peine imaginer la plupart des gens qui l'ont parce que vous êtes une femme.
Mais c'est pas négatif, c'est pas dérogatoire. Je suis pas en train de dire que c'est pas correct.
Il faut pas remettre en question sa non-binarité. Et c'est ce que j'ai lu dans les commentaires. Mais là, on est comme oui, mais il y a l'air.
Demander aux gens qui nous écoutent de regarder quelqu'un qui a un gros paquet, qui a manifestement un pénis et qui a une barbe, et de dire « vous ne devriez pas avoir le réflexe de penser que c'est un homme ». Je trouve que vous nous en demandez beaucoup.
J'ai envie de répondre spontanément « pas tant ». Parce que de toute façon, ça ne vous regarde pas, son identité. Puis il n'est pas
non,
en train de.
Je ne vous parle pas de ça, je vous parle de notre réaction à nous quand on voit une image comme ça. C'est moi, si je vois une banane, puis c'est un objet, c'est jaune, puis il y a des taches noires, je vais avoir tendance à penser que c'est une banane. Si je vois quelqu'un qui a un gros paquet puis qui a une barbe, je vais avoir tendance à penser que c'est un homme. Peut-être que la banane ne se définit pas comme banane, mais moi, quand je vois Sam Smith, je vois un homme. Je respecte que lui ne veut pas. Que Yel,
en ce cas-ci, oui.
Ne veut pas, mais je considère que ma réaction n'est pas illégitime de voir un homme.
Ou ce serait légitime, puis je pense qu'on va être plusieurs à s'entendre là-dessus, c'est qu'on va aller insulter.
Ah, ben là, j'insulte pas, Raphaël.
Non, exactement, puis c'est pour ça, mais c'est parce que vous le faites pas, mais quand je suis allé voir les médias sociaux, c'est ce que les gens font.
Les gens vont m'insulter parce qu'ils vont dire que j'ai un gros nez, alors que j'ai un tout petit nez absolument charmant et mignon. Ce que je veux dire, c'est que si on se fie juste sur les médias sociaux, il y a 99% des gens qui sont sur les médias sociaux qui sont des crapets soleil puis des taouins. Oui. Il faut arrêter à un moment donné aussi de s'inquiéter de ça. Et moi, je pense qu'il faut prendre avec une grande dose d'humour ce vidéoclip de Sam Smith.
C'est un magnifique vidéoclip.
Absolument. Mais on est d'accord là-dessus.
Ce que j'ai dit la semaine passée, plus d'éducation, justement, pour tous ces codes-là, il faut en parler plus souvent. Invitez-nous dans vos écoles, ensemble, et tous les autres beaux organismes du Québec.
Absolument. Mais il faut aussi reconnaître la réaction naturelle que les gens ont. Raphaël Provost, vous êtes directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Merci à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde, à Jessica Giroux à la recherche. Merci à vous de nous écouter. À tout bientôt.
Cube Radio.